France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et 80 secondes ce matin sur le très long portrait que le New York Times consacre à un utilisateur de la plateforme YouTube, un parmi des centaines de millions d'autres. C'est l'histoire banale d'un jeune homme blanc en échec scolaire, sans perspective professionnelle ou sociale. Il est désœuvré, il aime bien les jeux vidéo et trompe donc son ennui sur YouTube. De fil en aiguille, au hasard de quelques clics, il se retrouve exposé aux influenceurs, entre guillemets, qui défendent les thèses de la guerre culturelle menée contre l'Occident. Par la grâce de l'algorithme, notre jeune homme se trouve rapidement happé, submergé par l'immense production alt-right, complotiste, plus ou moins ouvertement raciste, misogyne, anti-islam et j'en passe. Le jeune homme, isolé, est désormais membre d'une communauté virtuelle infinie. Il y aura dans sa vie, je vous laisse découvrir pourquoi, un point de bascule qui le fera avec la même frénésie rejoindre le camp politique d'en face. L'article est fascinant parce qu'au fond, il ne dresse pas le portrait d'un individu banal, mais celui d'une catégorie entière de la population qui découvre ainsi la politique en ligne. Comment ce continent s'articulera-t-il à la démocratie représentative? Quel effet aura-t-il sur elle? C'est l'une des grandes questions de l'époque. Lisez cet article, le lien est sur notre site internet. Le Zoom.
C'est un effondrement, c'est le mot qu'on peut employer ici, avec effectivement tous ces rochers qui s'accumulent et ces faces qui se délitent. Bah c'est tout l'effondrement d'un paysage et d'un écosystème plus globalement.
Le Zoom de France Inter nous emmène ce matin en altitude où le réchauffement climatique provoque non seulement la fonte des glaciers, mais aussi l'effondrement de parois entières de la montagne. Dans la vallée du Mont Blanc, où les températures ont augmenté de 2 degrés en 80 ans, les effets y sont particulièrement délétère. Écoutez ce reportage à Chamonix de Géraldine Allot et Jean-André Gianecchini.
Comme chaque jour depuis le début de la saison estivale, le train du Mont-en-Vert déverse son flot de touristes à la mer de glace. Ce couple d'Asiatiques écarquille les yeux. Ce n'est plus une mer de glace, c'est une mer de pierre. Yannick Valençant est guide et président du syndicat interprofessionnel de la montagne.
Ça ne ressemble plus ni à une mer ni à de la glace. Vous avez tout ce qui reste du glacier qui est recouvert par des amas rocheux, de la poussière, etc. Donc c'est assez triste de voir ça quand on l'a connu autrement. Quand je m'entraînais pour passer le diplôme de guide de haute montagne, on venait ici. À l'époque, il y avait des lames de glace qui pouvaient faire jusqu'à 20 ou 30 mètres de haut et sur lesquelles on venait s'entraîner avec nos piolets, nos crampons, pour passer le diplôme de guide.
Combien il a perdu le glacier en hauteur à peu près depuis le début du siècle ?
Alors, depuis le début du 20e siècle, la mer de glace a perdu en hauteur plus de 100 mètres de hauteur. Et en volume, c'est évidemment considérable. Et visuellement, ça ne ressemble plus du tout à ce que c'était à l'époque. Hein, c'était une évidence.
La fonte des glaciers est la conséquence la plus visible du réchauffement climatique en montagne. Moins connue, mais tout aussi dramatique, la dégradation de ce qu'on appelle le permafrost. Le permafrost, ce sont les sols gelés en permanence. C'est en quelque sorte le ciment des montagnes. Ces dernières années, il a tendance à fondre lui aussi. Résultat, les pierres se détachent et des parois s'écroulent, comme ici, à la Tour Ronde.
Ah, mais c'est incroyable!
L'exemple le plus spectaculaire est l'effondrement du pilier Bonatti sur la face ouest des Drus en 2005.
Enchanté.
Ludovic.
Ludo, tout à fait.
Ludovic Ravanel, vous êtes géomorphologue. Ça consiste en quoi ?
Je suis géomorphologue. C'est quelqu'un entre la géologie et la géographie physique qui s'intéresse à l'évolution des reliefs terrestres. Et j'étudie notamment les évolutions face au changement climatique. En l'occurrence, ce qu'on va voir, c'est certainement lié au climat.
Ludovic Ravanel nous emmène au pied du glacier de Tacona, où un pan entier de montagne s'est détaché à l'automne dernier.
C'est un écroulement de quel volume ?
Alors l'écroulement, à sa base, c'est à peu près 95-100 mètres de large, sur une hauteur de 200 mètres. Et au total, on a un volume compris entre 55 et 65 000 mètres cubes, grosso modo.
Vous le reliez à quoi cet écroulement ? Il est dû à quoi ?
Que ce soit au niveau de la dégradation du permafrost ou au niveau de la décompression post-glaciaire, c'est deux éléments qui sont directement liés au changement climatique. Et certaines années, on a plus d'une centaine d'événements de plus de 100 mètres cubes qui se développent dans le massif. Et c'est le cas en particulier lors des étés caniculaires. Ça a été le cas en 2003, ça a été le cas en 2015, ça a été le cas en 2017, en 2018.
Des parois s'écroulent et la montagne devient plus dangereuse. Rien que sur la voie classique du Mont Blanc, 102 personnes sont mortes entre le refuge de Tête Rousse et le refuge du Goûter depuis 1990. La moitié de ces accidents est due aux chutes de pierres. Alors les alpinistes sont invités à gravir le Mont Blanc en mai-juin plutôt que l'été. Message reçu 5 sur 5 par cet alpiniste américain venu tenter l'ascension à la mi-mai.
Je pense que la sécurité est meilleure en mai. Il fait moins chaud et il y a moins de risques de chute de pierre. Enfin, on verra.
Des guides de la vallée disent qu'en juillet et en août, à cause des chutes de pierre, le couloir du Goûter est devenu un coupe-gorge.
Géraldine Allo, merci. Quand les montagnes fondent et s'effondrent, c'est un reportage à retrouver en longueur ce dimanche dans Interception et en photo et vidéo dès aujourd'hui sur notre site internet.